Chers frères et sœurs, les nouvelles gouvernementales ne sont pas toujours les plus mauvaises. Vous savez que quoi qu'il arrive, la prédication ne durera pas au-delà de 20h30, de façon à vous laisser le temps de rentrer chez vous. Et peut-être cette nouvelle, d'ailleurs, pourrait être l'occasion pour nous d'une nouvelle expérience. Profiter de ce couvre-feu instauré ce week-end comme l'occasion d'une expérience spirituelle, justement dans la veine de ces théologiens qui nous ont donné les mots du culte, comme je vous le disais. L'expérience qui est d'abord celle de Moïse, ici, dans ce texte, qui, nous le verrons, est aussi celle de l'apôtre Paul, l'expérience de Jean de la Croix, celle de Maître Eckhart, la nôtre, peut-être, nous verrons. C'est l'expérience de Dieu sans distance, sans médiation, sans écran. C'est l'expérience de Dieu à rien que Dieu. L'expérience de Moïse commence, nous l'avons entendu, par l'entrée dans ce que le rédacteur biblique nomme l'obscurité. Le traducteur grec a utilisé le mot « gnophos », la ténèbre. J'ai repris l'expression de Jean de la Croix, « la nuit obscure ». Je cite la première strophe de son poème particulièrement connu. « Au milieu d'une nuit obscure, d'angoisse d'amour enflammée, oh, la bienheureuse fortune, je sortis sans être aperçu, ma demeure étant pacifiée. » Voyez-vous, à défaut de rejoindre la nuit effervescente, la nuit blanche, la nuit de toutes les folies, pourquoi ne pas en profiter pour une fois pour entrer dans une nuit obscure, notre demeure étant pacifiée. À la strophe suivante, Jean de la Croix dit ceci : « Je gravis dans l'ombre très sûre, déguisé, l'échelle secrète, ô la bienheureuse fortune, dans les ténèbres, en cachette, ma demeure étant pacifiée. » Dans la tranquillité de la nuit, où plus aucune activité n'agite ni le corps ni l'esprit, loin des turpitudes de la vie quotidienne, gravir l'échelle secrète. Cette échelle qui nous fait accéder à notre intériorité. Entrer dans la nuit obscure, comme on entre en religion. Loin du peuple qui est fasciné par les lumières de la ville, le tonnerre, les éclairs, le bruit des affaires, les vibrations du monde. S'éloigner, un moment, du cœur battant du monde, pour se mettre à l'écoute de son propre cœur. C'est l'expérience de Moïse. Ce sera l'expérience d'Élie, également au mont Horeb, selon le premier livre des Rois, pendant une nuit, justement. Une nuit pendant laquelle il découvre que Dieu n'est ni dans le grand vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix de fin silence, pour reprendre la traduction de Lévinas. Profiter du couvre-feu pour emprunter cette échelle secrète qui nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes et faire l'expérience de Dieu qui ne se fait jamais dans ce qui est brillant ou éclatant. Songez à Jésus qui refuse les miracles spectaculaires ou qui n'y concède que du bout des doigts, du bout des lèvres. Parce que l'expérience de Dieu ne se fait pas au milieu du peuple rassemblé qui exulte ou qui tremble, qui s'agite. L'expérience de Dieu se fait dans la nuit obscure, dans la ténèbre, dans le chaos de l'existence plutôt que dans l'excitation populaire. L'expérience de Dieu n'est pas de l'ordre de la frénésie. Elle est de l'ordre de cette maison sereine, Jean de la Croix parle de demeure pacifiée. L'expérience de Dieu commence selon ce que notre culte donne à vivre. Dans l'ombre de Dieu, on s'en remet à lui. C'est le sens de la louange au début du culte. Et nous entrons en nous-mêmes, dans la profondeur de notre être, par la prière de repentance, qui est moins la liste de nos fautes de la semaine que la sortie de soi hors des certitudes qu'on n'interroge plus. Prendre le temps d'interroger notre existence, le temps de la relecture, la religion au sens strict du terme, non pas religuérer, se relier, ce qui est sympathique, mais à vrai dire, on ne fait pas église pour être sympa. Reléguérer, relire, le temps de la relecture, le temps de la confrontation de toi, de soi, à ce qu'il y a de plus ultime dans la vie. Et puis, la parole de grâce, cette bénédiction qui vient à la fin du passage biblique que nous avons entendu, cette bénédiction qui nous fait comprendre que cette traversée de la nuit obscure, cette traversée du chaos, débouche sur cette demeure pacifiée, cette possibilité de nous tenir dans une terre promise, où ce qui est promis relève du lait et du miel, pas de l'angoisse, pas de l'hésitation, pas de la terreur. La prière de repentance est une démarche de vérité. Dans la nuit obscure de notre existence, au cœur de notre ténèbre. Non pas remettre le couvercle sur ce que nous sommes profondément, mais ouvrir ce couvercle et pouvoir laisser s'épanouir ce que nous sommes appelés à devenir. Non pas « deviens qui tu es », comme le disait Nietzsche, mais « sois qui tu deviens », comme le disait André Gide. C'est une démarche de vérité qui nous permet de laisser derrière nous les images pieuses qu'on se fait de soi et qui n'ont que peu à voir avec ce que nous sommes vraiment. Le temps du culte pour le temps de la vérité. Cette entrée dans la nuit obscure, c'est le travail sur l'orgueil que font tous ceux qui entreprennent une démarche de foi véritable. Qu'elle soit guidée par Ignace de Loyola ou par Pierre de Bérulle, pour l'école de la spiritualité française. Qu'elle soit guidée par les personnages bibliques, Paul inclus, qui parlera de l'écharde dans sa chair qui l'empêche d'être orgueilleux. C'est la nuit obscure qui se vit pour que puisse se vivre l'expérience de Dieu. Parce que cette nuit obscure nous fait devenir comme des aveugles. Et c'est cela que les mystiques nous font comprendre. L'expérience de Dieu implique que nous devenions aveugles, comme le fut autrefois l'apôtre Paul. Je cite Jean de la Croix, dans la montée au Carmel. « L'âme doit se vider si complètement de tout ce qu'elle peut recevoir, qu'au milieu même ses dons surnaturels, elle en reste comme dépouillée. Et demeure dans les ténèbres, en aveugle, appuyée sur la foi obscure qu'elle a prise pour son guide et sa lumière, en ne s'appuyant sur rien de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle goûte, de ce qu'elle sent, de ce qu'elle se représente. Si la nuit obscure est le cadre propice pour faire l'expérience de Dieu, ce qui caractérise cette expérience, c'est donc ce qui caractérise la foi, c'est ce que nous venons d'entendre. Une foi sans contenu, finalement, une foi sans connaissance. C'est cela peut-être qui est le plus difficile à concevoir, parce que le christianisme a développé une dogmatique extrêmement subtile, et quand je dis une dogmatique, ce sont des dizaines de dogmatiques, des dizaines de cathédrales théologiques qui ont été bâties, édifiées au fil des siècles et dont nous disons qu'il faut les honorer pour être fidèles au Dieu de Jésus-Christ. Mais lorsque Paul, sur le chemin de Damas, fait l'expérience mystique qui le conduira à devenir le plus important des apôtres de Jésus-Christ, le rédacteur du livre des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 9, écrit que Paul voit rien. Il ne dit pas que Paul ne voit rien. Il dit que Paul voit rien. Et Maître Eckhart de commenter dans son sermon 71 que ce rien était Dieu. L'expérience que la foi fait de Dieu, c'est que Dieu est rien, rien que Dieu. Il n'est ni quelque chose qu'on saurait, ni quelqu'un qu'on connaîtrait. La nuit obscure conduit à cette expérience qui vaut aussi pour Moïse. Dieu est rien, au sens où l'expérience de Dieu nous fait abandonner nos savoirs, nos prétentions à définir Dieu. Moïse n'annonce pas au peuple que tout ce qui se passe arrive pour savoir qui est Dieu enfin, ou pour connaître Dieu. Il dit que cette expérience doit aboutir au fait que sa crainte soit devant la face du peuple. Ce n'est pas un contenu. On pourrait dire que c'est plutôt une émotion. C'est une façon d'être, une posture face à la vie. L'expérience de Dieu n'est pas une expérience gnostique qui nous initierait en nous faisant savoir qui est Dieu. L'expérience de Dieu est plutôt une expérience agnostique, une expérience qui fait tomber tout savoir sur Dieu. Parce que Dieu n'est pas une chose, il n'est pas un être parmi d'autres ou un être au-dessus des autres, un être d'exception qui serait l'occasion d'un savoir particulier. La foi en Dieu est plutôt une foi agnostique en vérité. Et on pourrait dire que Moïse entre dans la nuée, que nous pourrions aussi appeler le nuage de l'inconnaissance. Parce qu'ici, Dieu n'est pas un objet de savoir ou de connaissance. Dieu est ce qui provoque le sentiment religieux, extrêmement bien décrit dans ce passage biblique. À la fois parce que Moïse entre dans cette nuit obscure. J'allais dire, il ne peut résister à l'appel de cette nuit obscure. Et en même temps, il y a ce tremblement, il y a cette peur, cette crainte. Voilà les deux caractéristiques paradoxales du sentiment religieux. Le sentiment lumineux, pour prendre le terme technique, dont parle admirablement bien Rudolf Otto, par exemple, dans son étude sur le sacré. À la fois une fascination et à la fois une profonde terreur. Ce double mouvement paradoxal est le signe caractéristique d'une véritable expérience mystique, l'expérience de Dieu, sans intermédiaire, sans médiation, sans écran, sans réseau Wi-Fi non plus. C'est la raison pour laquelle le judaïsme, notamment au temps de Jésus, avait l'habitude de désigner les croyants comme des craignants Dieu. On peut toujours se dire que c'est parce que la religion développée à l'époque était une religion d'oppression, qui faisait qu'il fallait avoir peur, peur de ce qui allait arriver. Pensons plutôt à une crainte respectueuse. Vous savez, ce genre de crainte, y compris dans la relation amoureuse, qui développe une forme de peur, parce que c'est immense, mais aussi parce qu'on a peur que cela disparaisse, s'effrite. Ceux qui savent Dieu, ceux qui prétendent pouvoir parler au nom de Dieu, ceux qui savent ce que Dieu voudrait, ne parlent pas de l'Éternel, le Dieu que révèlent les textes bibliques. Ceux qui savent Dieu, ceux qui peuvent parler au nom de Dieu et dire quelle est sa volonté ici et maintenant, parlent en fait du Dieu de leur fantasme, et tout particulièrement du Dieu de leur fantasme de toute puissance. La théologie négative, puisque c'est de cela dont il est question, est une théologie qui permet aussi de ne pas se tromper de Dieu. Et c'est peut-être l'un des intérêts majeurs de la théologie négative, qu'on appelle aussi théologie apophatique. Et le terme est intéressant, parce que la théologie apophatique est celle qui rejette au loin, apo, ce qui n'est qu'une opinion, fémie. La théologie, ici, rejette la république des opinions, où chacun a quelque chose à dire pour se rendre intéressant. La théologie privilégie au contraire les convictions qui sont passées par la nuit obscure, par le tamis de la critique et le feu de l'expérience personnelle confrontée à Dieu. C'est cette théologie qui repousse les lieux communs loin du champ de la foi. C'est celle qui repousse les évidences invérifiées. C'est celle qui repousse les discours péremptoires et non argumentés. C'est cette théologie qui évite de faire à côté de Dieu des idoles, des dieux d'argent et d'or, des dieux de bricole, des dieux à la petite semaine, des dieux qui nous arrangent, des dieux à notre mesure, des dieux sur mesure. Pensons à ce qu'écrit Thérèse de Lisieux, une contemporaine de Jean de la Croix, dans le château intérieur où les demeures de l'âme. Elle parle justement, pour ces femmes du Carmel, du risque de se fourvoyer dans la prière, d'avoir une vie spirituelle orientée vers autre chose que Dieu. Elle consacre une partie de son travail sur les tromperies dans le cadre de la prière, qui peuvent très bien nous conduire à nous attacher à des choses vaines, qui nous apportent une satisfaction momentanée, mais qui n'ont rien de divin et qui ont tout du démon, pour reprendre le terme de Thérèse d'Avila, qui s'applique si bien à ceux qui déclarent faire justice au nom de Dieu, alors qu'ils ne font que transformer leur frustration ou leur rancune en force de destruction, le daimon. Ce travail de la théologie négative, de la théologie apophatique, qui repousse au loin les opinions infondées, c'est aussi le travail patient, décrit avec détail par le philosophe René Descartes dans le discours de la méthode. C'est le travail du doute, un doute véritable, pas une hésitation passagère, le doute véritable, la véritable traversée de la nuit obscure. C'est le travail du doute qui peut nous aider à nous débarrasser de toutes les fausses idées, de toutes les opinions de pacotille que nous tenons pour des vérités sur Dieu et qui ne sont que des inventions personnelles qui nous arrangent bien. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons ce travail sérieux, nous découvrons qu'il ne peut y avoir, par exemple, de délit de blasphème, parce qu'il ne peut pas y avoir de blasphème, tout simplement. Considérer qu'un propos, un dessin, une mise en scène peut être sacrilège au sens d'une atteinte à Dieu, c'est avoir une bien piètre idée de Dieu au sens d'une atteinte à Dieu. C'est n'avoir jamais fait l'expérience de Dieu. Parce que l'expérience de Dieu, c'est l'expérience que Dieu est bien au-delà de Dieu, pour reprendre l'expression du théologien Paul Tillich. C'est-à-dire toujours au-delà de ce que nous en pensons, toujours au-delà de ce que nous disons de Dieu, et bien sûr, toujours au-delà de ce que nous faisons de Dieu. Dieu est au-delà de nos idolâtries, comme il est aussi au-delà de notre religiosité. Dieu échappe, comme Jésus échappait à la mainmise du peuple qui voulait en faire sa chose. Et c'est tout l'intérêt de ce verset sur la construction de l'autel. L'autel était ce meuble utilisé pour accomplir les sacrifices au temps du temple de Jérusalem. Les sacrifices étaient ce moment de communion privilégiée avec Dieu. L'ordre de bâtir un autel s'accompagne d'une promesse de bénédiction qui contient un enseignement théologique capital. Ce n'est pas nous qui faisons venir Dieu, ni avec nos bonnes pratiques, ni avec nos bonnes paroles, ni avec nos bons sentiments, ni avec notre bonne bouille. C'est Dieu qui vient, partout où il invoque son nom. C'est Dieu qui a l'initiative de sa présence, et non pas nous. C'est une manière de dire que nous ne contrôlons pas le divin. Nous n'avons pas la main sur le divin. Nous ne pouvons pas nous prévaloir du divin, qui que nous soyons. Nous ne pouvons donc pas agir au nom du divin. L'enseignement de la théologie négative, traditionnellement, est que Dieu est Dieu. Au-delà, ça devient un peu n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que si nous prolongeons cela, si nous en tirons les conséquences, si Dieu est Dieu, point. Alors, lorsque nous agissons, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est nous qui agissons. Nous ne pouvons pas nous prévaloir de Dieu pour justifier nos actes. D'ailleurs, le thème de la justification par grâce seule n'est pas le thème de la justification de notre éthique, de nos actes. C'est la justification de notre être. Par conséquent, dire Dieu ne devrait jamais se faire qu'avec une extrême humilité, avec la conscience que nous n'avons jamais accès qu'aux traces de Dieu, comme Moïse, qui ne verra que les arrières de Dieu, au chapitre 33 du livre de l'Exode. Autrement dit, il verra la trace de Dieu dans l'histoire, il verra les effets de Dieu dans la vie des personnes, et ainsi, un autre grand mystique, Angelus Silesius, écrira « Les dons de Dieu ne sont pas Dieu. Qui prie Dieu pour ses dons est bien dans le malheur. C'est la créature qu'il adore et non le Créateur. » Voyez ce malentendu qui est souvent le nôtre. Lorsque notre prière s'efforce de vouloir obtenir les dons de Dieu, eh bien dans ce cas-là, cela signifie qu'on s'intéresse à Dieu pour notre propre profit. Et c'est une posture narcissique, et en vérité une posture perverse, une posture qui consiste à instrumentaliser Dieu, comme on peut instrumentaliser l'autre, en faire son marchepied, quand ce n'est pas son essuie-pied. Et c'est ce que font les fanatiques, qui confondent Dieu avec leurs propres aspirations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, nous, en tant que craignants Dieu, un devoir de régulation dans le champ religieux, pour ne pas laisser entendre que toutes les théologies seraient équivalentes. Parce qu'il y a des théologies qui développent des représentations et des idées de Dieu qui sont tout à fait contraires au Dieu de Jésus-Christ. La foi agnostique est une libération des formes religieuses qui s'arrogent des bouts de Dieu pour en faire le plus souvent des instruments de pouvoir. C'est contre cela que nous devons lutter. La foi agnostique est justement cette foi qui va entrer en guerre contre ceux qui décident de prendre l'étendard de Dieu pour exercer leur propre justice. La foi agnostique est une libération à l'égard des discours qui prétendent détenir Dieu, ce qui revient à en faire sa chose. Et dans ce cas, cette chose, c'est pas grand-chose. La foi agnostique est une libération pour notre spiritualité, qui, une fois débarrassée de tout ce qui n'est pas Dieu, est disponible pour recevoir l'empreinte de Dieu et être inspirée par Dieu. Dieu, je le disais dans la louange, ce qui arrache notre humanité à sa nature chaotique, ce qui fait œuvre de réconciliation entre les fratries divisées, ce qui nous permet d'être face à la vérité, ce qui fait crier et pleurer les prophètes, ce qui fait jaillir les psaumes, ce qui suscite la sagesse, ce qui met le Magnificat dans notre bouche, etc., etc. L'Éternel n'est pas un daimon, une force de destruction. L'Éternel n'est pas un dynamisme destructeur. L'Éternel est un dynamisme créateur, créateur de notre vie. L'Éternel est ce qui fait venir à l'existence ce qui n'existe pas encore. L'Éternel est ce qui suscite notre volonté irrépressible du bonheur, qui, inexorablement, passe par la traversée de la nuit obscure pour atteindre sa bénédiction finale. Amen.